Info Club Sandwich.
Votre rendez-vous d'actualité locale, associative et culturelle.
Sur Radio Campus Amiens.
Bonjour à toutes et à tous, ici Jeanne pour votre émission Info Club Sandwich. Aujourd'hui, je vous propose de parler de spectacle vivant et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir Julien Gros de la compagnie Issue de Secours. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en résidence au centre culturel Léo Lagrange d'Amiens et vous travaillez en ce moment sur le spectacle de rue Les Tisseurs d'Instant. C'est un spectacle que vous présenterez au centre Léo Lagrange samedi, dimanche et lundi prochain en public. Vous y abordez notamment le thème de l'industrie textile de la Somme et des Hauts-de-France et les changements donc autour de nos modes de production à travers l'évolution notamment de la fabrique de cravates. Est-ce que tu pourrais déjà nous raconter comment est né ce projet, en fait, comment cette idée de spectacle t'est venue ?
Alors, la compagnie Issue de Secours est dirigée par Alexis Tripier et dans le cadre de sa résidence de territoire au centre culturel Léo Lagrange, ils avaient entamé un cycle sur la mémoire ouvrière. Et donc dans ce cadre-là est né le projet des Tisseurs d'Instant que moi j'ai donc mis en scène. Avant d'approfondir, je m'étais dit que je le ferais et j'en profite de maintenant pour ne pas l'oublier. Je tenais à remercier vraiment toute l'équipe, puisque il faudrait beaucoup d'ignorance et de bêtises pour penser qu'on fait un spectacle tout seul. Et vraiment, on sort de 3 semaines de résidence. On a énormément travaillé, il y a beaucoup de fatigue. On a fait du 9h-20h à peu près en moyenne. Quasi quotidiennement, on a conçu ce spectacle, on l'a cousu, il y a des comédiens qui se sont pris des aiguilles dans les doigts, et il y a eu du dépassement de fonction de la part de tout le monde. Donc, je tenais déjà simplement à remercier tout le monde pour vraiment le travail qui a été réalisé, l'investissement qu'il y a derrière et toute l'énergie qui a été déployée. Ensuite, voilà, donc l'idée de ce spectacle, c'est donc de faire un spectacle de rue autour de ce thème. Dès le départ, il y a eu un gros travail de collecte et de documentation, de recherche. La matière est hyper riche sur le sujet. Il y a plein de thèmes qu'il est possible d'aborder. Donc il a bien fallu en choisir quelques-uns pour construire une narration. Donc voilà comment on a fonctionné. En gros, j'ai imaginé un dispositif scénique à 360 degrés dans lequel en fait l'usine se déploie, s'agrandit. Et à partir de là, on a fonctionné en impro, donc on a essayé différentes possibilités avec ce dispositif. Ensuite, on a construit un squelette, une espèce de trame narrative. Puis Yannick Béclin, qui est donc auteur, s'est emparé du travail qu'on avait fait et lui a mis en bouche. En fait, en gros, il a musclé le squelette, il a donné vie à des personnages et à partir de là, vraiment, l'apport de Yannick a été considérable puisqu'à partir de là, on n'a plus vraiment travaillé dans davantage de précision, travaillé sur la direction de jeu, en fait, de direction d'acteur, puisqu'on avait des personnages qui avaient un début et une fin. Et aussi, je remercie tout particulièrement Alexandrine Rollin, qui est une partenaire fidèle, qui est la scénographe du spectacle, avec qui c'est toujours un plaisir de travailler, avec qui on échange énormément sur le sens qu'on veut donner à la matière visuelle très riche qu'il y a dans le spectacle.
Donc tu l'as dit, à la base, dans ce spectacle, il y a une collecte de témoignages donc d'anciens ouvriers textiles samariens. Est-ce que l'idée, c'était de mettre en valeur justement leurs paroles, leur vécu au travers de ce spectacle, un peu comme un héritage, une mémoire ouvrière locale ?
Alors, oui et non, dans le sens où moi je voulais un peu éviter la nostalgie ouvrière. C'est-à-dire que quand on écoutait là certains témoignages, on avait l'impression que c'était tout rose. Et je pense que c'est un peu comme on parle d'une époque révolue, c'est un peu comme par exemple lors de funérailles, où on a l'impression que la personne qu'on enterre n'avait que des qualités. Et on a un peu tendance à oublier les défauts. Et du coup je voulais pas faire de concessions aussi sur ce que ça a été, en fait, ne pas édulcorer le propos. Donc on s'est inspiré de ces témoignages, mais ensuite moi j'insiste sur le fait qu'on ait créé notre fiction. Ça nous a servi de source d'inspiration, en fait. Et ensuite on s'en est éloigné, on s'est approprié toute cette matière pour la décaler, pour pas la décaler, enfin voilà... On reste quand même sur le thème, mais on s'en empare, quoi, on se l'approprie. Ensuite, par rapport au témoignage, il y avait aussi le côté de la romance. Enfin, il y a un exemple qui est très parlant, c'est en fait un homme qui racontait lors de l'interview qu'il avait été contremaître, et puis on a eu une dame qui avait été ouvrière qui derrière nous a dit « mais il n'a jamais été contremaître en fait ». Du coup, voilà, c'est comment on s'empare de cette parole, comment elle nous sert d'inspiration, mais non pas comme une espèce de vérité absolue. Et voilà.
Du coup, c'est au-delà de l'aspect historique, il y a une dimension très, très personnelle, émotionnelle, en fait, que vous avez aussi travaillé dans ce spectacle. Au-delà de ces témoignages, de la grande histoire, en fait, c'était plein de petites histoires que vous avez voulu raconter et que vous êtes réappropriées, c'est ça ?
Tout à fait. Alors, il y avait une chose qui me tenait à cœur aussi, c'est que, par exemple, dans les témoignages qu'on entend, il y avait vachement de... autour du champ lexical qui était employé, il y avait vachement de propos de l'ordre de l'affectif. J'étais marié à ma machine, j'aimais mon métier, j'étais déçu par tel ou tel machin. Du coup, il y avait vraiment un rapport affectif au savoir-faire, à cette fierté, à la transmission. Du coup, moi, ça m'a invité à imaginer le spectacle. Si c'était une métaphore, ce serait une relation qui se dégrade, en fait. Dans le sens où comment on est séduit par l'objet, comment on en devient dépendant, comment on s'y attache. Comment il y a un élément, une embrouille, et comment il y a rupture. Et du coup, la fin du spectacle, tout le monde la connaît, hein, l'usine va fermer, on n'invente rien. Mais je voulais que ce soit brutal et justement être dans quelque chose de plus intestinal que cérébral. Parce que si on rentre dans le champ du cérébral, dans le champ idéologique, forcément on ne va pas être d'accord. Et c'est très bien de ne pas être d'accord, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais là, ce que je voulais, c'est de créer une réaction émotionnelle et avec... En fait, la brutalité que ça pouvait représenter, ici même à Amiens, à Cossera, des ouvrières qui, du jour au lendemain, en fait, se pointent à l'usine et plus de machines. Et ils ont délocalisé toutes les machines dans la nuit, sans les prévenir, sans les avertir. Je sais pas si... Enfin, il faut bien se rendre compte de la violence du truc, quoi. Ça fait 30 ans qu'elles bossent ici et du jour au lendemain, bah, plus rien, que dalle. C'est hyper violent, quoi. Et moi, je voulais que la fin du spectacle, elle soit brutale comme ça. Sèche, nette, sans compromis, sans concession, quoi.
Ça se termine dans une espèce de chaos, d'ailleurs, justement.
Absolument. Donc, ça se termine comme dans un chaos. La raison, elle est pareille. Alors, encore une fois, elle est inspirée du réel. C'est-à-dire que moi, je voulais qu'on parte d'aujourd'hui. Je voulais qu'on apporte et qu'on assume pleinement notre point de vue d'aujourd'hui sur ce qui s'est passé, en fait, pendant les 200 dernières années. Et d'assumer ça pleinement. Aujourd'hui, les conséquences, elles nous paraissent évidentes. Sociales, environnementales, humaines, tout ça. Mais je voulais qu'on parte d'aujourd'hui, on inaugure un centre... que sont devenues les usines du textile ? Des friches industrielles. Qu'est-ce qu'on fait avec les friches industrielles ? On fait des supermarchés, du logement et parfois des centres culturels. Donc là, nous, on a choisi de faire un centre culturel. Et à l'occasion de l'inauguration du centre culturel, donc, on propose un spectacle qui retrace la vie de l'usine. Ce qui nous permet en fait de condenser 200 ans d'histoire en une heure, quoi. Avec quelques raccourcis.
Et de se réapproprier un peu les origines du lieu aussi, de l'imaginer autrement.
Tout à fait, en fait. C'est là où la dimension, la fiction, elle est hyper importante, en fait. Parce que y a la transmission qui nous a été faite, déjà, de l'histoire de ces usines, c'est de dicto. C'est pas de facto, c'est de dicto. C'est-à-dire que c'est les gens qui nous disent, qui nous racontent, qui se souviennent, qui romancent, qui revoient un peu à leur sauce. Du coup, ce sont déjà des fictions, en fait. Donc on s'empare de fiction pour fabriquer une fiction, puisque personne n'a la prétention de détenir le savoir de ce que ça a été. Et de toute façon, on sait pertinemment que selon un sujet, selon les personnes, il y aura des points de vue, des entrées différentes et du coup des histoires différentes. Et moi, ce rapport à la fiction, il me passionne de plus en plus. Je cite un petit exemple, je trouve qu'il est hyper parlant. C'est Alice Zeniter qui dit ça dans un de ses bouquins qui s'appelle « Je suis une fille sans histoire », où en fait, elle s'interroge sur la question du récit et de la fiction à travers le temps. Et elle se dit, et l'exemple est très clair, comment se fait-il que des hommes préhistoriques ne nous soient restés que dans les grottes, un homme avec une lance qui chasse un mammouth ? Comment se fait-il que les hommes et les femmes de cette époque ont choisi de se représenter comme ça quand on sait qu'à l'époque, on était 85% cueilleurs, en fait, et 15% de chasseurs. Elle dit, c'est simple, c'est parce que l'histoire était meilleure. Elle dit, voilà, vous prenez un groupe de personnes qui allaient faire la cueillette, oh, bah là, j'ai vu une BDRL, oh, bah là, il y avait deux belles framboises, et je les ai cueillies et tout, machin. Elle dit, maintenant, voilà, vous prenez le chasseur qui revient, je me suis fait poursuivre par un mammouth, j'ai dû affûter ma lance, je me suis réfugié dans une grotte, je l'ai pris, ça a saigné, ça machin. Et en fait, quand ils se retrouvaient le soir autour du feu, elle présume, ils se racontaient leurs histoires, et celle qui était la plus marquante, c'était celle-ci. Donc, c'est pour ça que dans les grottes, enfin, elle suppose, hein, encore une fois, mais elle imagine que c'est pour ça que dans les grottes, les hommes et femmes de cette époque se sont représentés comme ça. Et c'est toujours, pareil, une question de l'histoire. Et moi, je me dis, quelle histoire on veut se raconter, nous, aujourd'hui ? On voit bien que notre système, il est à bout de souffle, que ce modèle, il est absurde, qu'on continue de produire... je voudrais pas dire de conneries, mais ça se compte en milliers de tonnes de fringues qu'on crame tous les ans. Parce qu'en fait, on en produit trop. Et comme on va en reproduire l'année d'après, bah, on les crame. On sait pertinemment qu'on a 10 années d'autonomie vestimentaire devant nous. Si on s'arrête de fabriquer des fringues aujourd'hui, bah, voilà, on a suffisamment de fringues pour durer 10 ans. Bah, voilà, tout ce genre de choses. Que c'est la deuxième industrie la plus polluante après l'industrie pétrolière. Donc voilà, il y a tous ces aspects-là, en fait, qui nous ramènent à aujourd'hui. Qui... on parle du passé, mais il fait écho à là où on en est aujourd'hui. Et voilà, moi, je trouvais ça intéressant et surtout hyper excitant à travailler scéniquement.
Tu le travailles d'ailleurs avec un certain humour, ce modèle productiviste justement qu'on retrouve dans ta pièce. On voit par exemple le fait qu'on produit, on accumule sans cesse, en fait, sans limite, et que c'est le seul objectif au détriment du sens qu'on peut mettre derrière. C'est quelque chose c'est un sujet qui te touche, toi, particulièrement, en dehors de cette pièce. C'est vraiment quelque chose que tu as voulu aborder
Là où moi, je fais bien la distinction, c'est-à-dire que quand je veux militer, je vais manifester dans la rue, en fait. Je le fais, j'y vais, pas toujours, mais quand je peux, j'y vais. Quand je peux signer une pétition, je la signe, machin. Mais j'ai pas la prétention de faire un spectacle militant. Je fais un spectacle, en fait. Je fais un divertissement. Et j'assume ça pleinement. Il y a pas de problème. Et toute l'équipe, on est tous d'accord là-dessus. Enfin, je veux dire, on s'est beaucoup questionné et tout. Après, évidemment, il y a du fond. Évidemment, il y a un propos. Évidemment, il y a un positionnement. Brecht disait un spectacle, c'est fait pour diviser, pas pour rassembler. Diviser dans le sens où voilà, on se positionne et on a un point de vue sur l'histoire, en fait. Encore une fois, moi, ce qui m'intéresse vraiment là-dedans, c'est quelle histoire voulons-nous nous raconter ensemble, puisque ce n'est jamais que ça. Les orientations qu'on donne, les machins, les trucs, c'est jamais qu'une histoire. Pareil, toujours, c'est Alice Denitaire dans un autre de ses romans, elle dit comment se fait-il que nous autres, là, on imagine plus vraisemblablement que la Terre se fasse percuter par un astéroïde que la fin du capitalisme. Elle dit, ça nous paraît en fait impossible d'imaginer la fin du capitalisme, ça nous paraît plus probable qu'il y ait un astéroïde qui nous percute ou alors, je sais pas, voilà, d'autres trucs, quoi. Et c'est pour dire que cette histoire, elle est ancrée, mais qu'on peut... comme toutes les histoires, on peut la changer, on peut voilà, la faire dévier de sa trajectoire.
Et au niveau des récits, justement, que tu as pu entendre au niveau de la collecte au départ, y avait cette critique du modèle productiviste que tu retrouvais un petit peu, ou au contraire, non, c'était plus dans l'idéalisation d'un âge d'or passé
Ouais, bien sûr. Non, il n'y avait pas ce... Encore une fois, nous, aujourd'hui, c'est facile hein, pour nous. D'avoir ce recul sur ce modèle et je voudrais surtout pas l'idée c'est pas surtout pas vraiment pas de genre je sais pas être moralisateur ou donner une leçon non pas du tout, c'est d'assumer le fait que voilà aujourd'hui on voit bien que bah ça montre ses limites mais qu'à l'époque moi je les juge pas hein, je juge même pas le patron en fait. Il n'est pas question de juger le patron. Le patron, dans la pièce, il est pris dans un système. Alors après, oui, je veux dire, aussi bien, pareil, je ne considère pas les ouvriers comme une homogénéité. On a tendance à les imaginer comme un groupe homogène et tout. C'est pas vrai. Je veux dire, il y avait des disparités. Ce sont des êtres humains à part entière, uniques, singuliers. Et ils n'étaient pas tous copains et solidaires et unis. Ça, c'est du roman. Ça, encore une fois, c'est de l'histoire. Mais voilà... je comprends parfaitement qu'on puisse à l'époque être pris par cette promesse, histoire de progrès, de toute façon, il y a un autre truc qui est hyper parlant, c'est que là, depuis quelques années, quand on demande aux parents s'ils pensent que leurs enfants auront une meilleure vie que la leur, ça fait depuis un siècle en fait, où les parents répondent non. Sinon, depuis toujours, on pensait que nos enfants auraient de meilleures conditions de vie que les nôtres. Et là, on est à une bascule. Du coup, c'est bien pour dire que si on en est là aujourd'hui, c'est parce que il y avait un truc hyper euphorisant et il faut comprendre que le travail aussi, le travail salarié, ça a permis à des gens à pouvoir bouffer davantage. Enfin, il y a aussi ce genre de choses. Il y a du bien et du, enfin pas du bien et du mal parce que ça c'est des considérations morales, mais il y a des choses avantageuses, des choses désavantageuses. Il y a des conditions de travail horribles. Évidemment, faut pas non plus embellir le truc, mais il y a aussi la possibilité d'avoir un taf. C'est complexe, en fait. Et c'est beaucoup plus complexe qu'un positionnement radical. C'est-à-dire que, putain, moi, j'en peux plus de cette radicalité, genre, si t'es pas pour, t'es contre, si c'est pas oui, c'est pas non. Moi, ça, j'en peux plus. Enfin, je veux dire, mettons de la nuance. Tous les ouvriers n'étaient pas que gentils, non, les patrons n'étaient pas que méchants. Moi, j'ai été moi-même, il y a longtemps, ouvrier agricole, j'étais élagueur. Bah, mon patron, il était humain, il votait les verts, enfin, complètement à l'encontre de ce qu'on pourrait, voilà, se représenter. Donc voilà, c'est amener de la nuance et surtout, du coup, pouvoir amener de l'échange derrière. Pouvoir dialoguer, pouvoir ne pas être d'accord, mais s'écouter. Ne pas s'enfermer dans des cases, ne pas se stigmatiser comme ça en permanence, comme on le fait avec un débat pourri. Le débat, il est pourri, quoi. Je veux dire, en ce moment, de manière générale, quoi. Et du coup, voilà, c'est sortir un peu de cette mécanique-là du positionnement de la case, quoi, en fait.
Justement, vous avez plusieurs personnages dans le spectacle. On retrouve le contremaître, on trouve le patron, on trouve les ouvriers. C'était aussi une façon de montrer leurs interactions et leurs limites à chacun et leur façon de tous vivre les uns par rapport aux autres et dans leur relation au travail également, de voir que tout le monde est un peu pris dans cette machine finalement et qu'il n'y a pas de coupable, il n'y a pas de grand méchant.
Ben, tout à fait. En fait, s'il fallait taper sur quelque chose, moi je préfère taper sur des idées que sur un homme. Je veux dire, ça ne m'intéresse pas de taper sur un homme. Enfin, c'est pas. Mais ça m'intéresse pas de. Voilà, c'était plus de s'interroger, en fait, plus que de taper, même. C'est de s'interroger sur une idée, plus que de s'interroger sur des personnes. Je veux dire, le patron, dans le spectacle, il est fils de patron. Je veux dire, qu'est-ce qu'il y peut, lui ? C'est comme. Enfin, on choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. Enfin, je veux dire, on y est pour rien, quoi. Lui, voilà, il est descendant, bah, il fait son truc, et puis voilà, quoi. Et puis. Quant aux interactions entre les personnages, c'est important parce qu'il y a, en gros, c'est un peu schématique, mais ça nous a vachement aidé dans la construction, narrative du spectacle. T'as trois séquences, t'as le travail manufacturé, t'as le travail qui se mécanise et puis après qui s'automatise. Et en fait, ces différentes évolutions provoquent des mutations dans l'organisation du travail. Par exemple, voilà, le personnage de Monty qui est joué par Simon Dubois, au début, il est avec eux. Ensuite, ça se mécanise, il est plutôt contremaître. Déjà, il se détache. Puis après, carrément, quand ça s'automatise, il est en gros contrôleur qualité, quoi. En fait, il y a aussi, à l'image de ce que ça a été l'histoire, une division du travail, en fait. Et voilà.
Tu as parlé tout à l'heure brièvement de la scénographie. Justement, il y a un dispositif scénique qui est plutôt original avec un public placé à 360 degrés, donc autour de la structure de l'usine qui s'agrandit au fur et à mesure que le spectacle se déroule. Qu'est-ce qui t'a donné envie comme ça d'inclure de plus en plus le spectateur qui se fasse lui-même avaler en fait par l'usine et par la machine ?
Eh ben, y a deux choses. La première, c'est l'histoire en fait, c'est-à-dire que l'industrie textile, particulièrement chez nous, c'est l'industrie textile, mais c'est valable aussi pour toutes sortes d'industries. C'est-à-dire que son empreinte sur le territoire ne cesse de s'agrandir. C'est-à-dire que voilà, il y a les usines, il y a les maisons ouvrières, il y a les coopératives, il y a les écoles, il y a tout ce genre de choses en fait. Les bassins industriels, c'était voilà, ça filait l'emploi en fait. C'était hyper important dans le village, tout le monde y passait quelque part presque. Donc voilà, c'était pour d'une part représenter voilà. L'importance de l'impact géographique que le monde de l'industrie représente sur un territoire. Puis aussi le fait que pour qu'on continue à produire, il faut qu'il y ait des consommateurs. Et que quand je dis que la responsabilité est collective, c'est aussi une manière de représenter à travers le dispositif scénique cet aspect-là. C'est-à-dire que tant que nous, on continue à acheter tout le temps beaucoup, il n'y a pas de raison qu'on s'arrête de produire. Mais encore une fois, je ne pense pas que ce soit que de la faute des consommateurs, pas du tout. Mais voilà, donc c'était pour inclure aussi de plus en plus les gens là-dedans. Et cette spirale, en fait, c'est le spectacle, c'est un peu comme une grande fête qui tourne mal, quoi. Une espèce de gâchis.
Montrer que tout le monde est dans un système, en fait, qu'on est tous pris dedans.
Ouais, carrément. Enfin, oui, je pense. Je pense que, je veux dire, habiter en France, là, aujourd'hui, on est acteur de ce système, inévitablement.
Une petite dernière question avant d'arrêter cet entretien. Dans ton spectacle, tu abordes différentes pratiques artistiques. En fait, on trouve de la musique, on trouve du théâtre, de la scénographie, de la danse aussi, du slam également.
Alors,
Est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que tu as eu l'idée d'inclure tout ça et pourquoi est-ce que c'est important pour toi d'interroger, enfin de créer un spectacle qui soit un peu multiforme, polyforme ?
Alors, une petite rectification avant d'aller plus loin. Le slam, en fait, on devait travailler avec Arthur Ribot, mais lui, il n'est plus disponible, puisque le spectacle, en fait, on devait le jouer il y a un an. Et voilà, pour des raisons d'agenda et d'organisation, on a fait sans lui. Donc, il n'y aura pas de slam sur le spectacle. Je ne veux pas être accusé de publicité mensongère. Mais pour le reste, en fait, ça s'est fait assez naturellement. En fait, assez tôt, moi, je voulais que donc, le patron, qui est joué par Julien Huet, qui est un musicien en or, en fait, qui sait à peu près tout faire en matière d'instruments, je voulais que ce soit lui qui donne le tempo. En fait, dans le spectacle, le patron, c'est un peu une rockstar, en fait. C'est un peu le roi de la pop. C'est lui qui donne le rythme. C'est lui qui donne les couleurs. C'est lui, voilà, en fait, qui régit tout ça, mais musicalement. Donc, il a un système de loop, de boucle, ce qui lui permet de voilà, poser de la gratte, du sax, de l'accordéon, ce genre de choses, quoi. Donc, il y a ça passe de la bossa au zouklov, au ska, à l'électro. Voilà, il y a un environnement sonore qui est très riche. Je voulais que l'environnement soit très riche, parce que dans de nombreux entretiens, la première chose qui frappait les ouvriers leur premier jour, c'était le bruit. Il disait, ça c'était infernal en fait, c'est-à-dire que tu passes ta journée dans le bruit, tout le temps, le bruit, et le coton qui vole, mais le bruit. Du coup, assez vite, c'est presque apparu comme une évidence de se dire que voilà, il y a une ambiance sonore, un paysage sonore qui est présent quasi du début à la fin en fait. Après, pour ce qui est de la danse, c'est un peu c'est une chorégraphie d'ensemble. Le système à 360 degrés, moi, c'est une première, hein, mais ça pose énormément de contraintes. Tu dis waouh. Il faut que tout le monde, en fait, les spectateurs, aient toujours quelque chose à croquer, toujours quelque chose à voir. Vous verrez pas tous la même chose. Il y a des espèces de moments privilégiés, là, comme ça, qui sont faits parce qu'il y a un des comédiens qui vient vers vous, mais vous êtes avec lui, donc pas avec l'autre. C'est à certains moments, quoi. Donc, forcément, on a été obligé de chorégraphier, on a été obligé de. Voilà. Équilibrer le plateau, ça a été super, hein, je veux dire, pour le travail, la recherche et se creuser la tête, c'est génial. Moi, c'est ma période préférée, en fait. C'est quand on crée, quand on se pose des questions et quand on a des contraintes. Il faut embrasser les contraintes quand on fait ce métier, parce que ça nous invite à être créatifs.
Ça nous invite à nous dépasser un petit peu, à imaginer d'autres choses, essayer de sortir un peu de sa zone de confort.
Ouais, tout à fait, bien sûr, parce que déjà, voilà, il y a cet aspect-là. Il y a aussi le fait d'être en extérieur. On n'a pas le confort de la salle. Dans une salle, le rapport frontal d'une salle, il est plus aisé d'orienter le regard du spectateur, de capter son attention. Là, il fallait faire en sorte que l'attention soit toujours captable. voilà. Et puis, ouais, ça a été... Enfin, vraiment, il y a une super équipe sur ce projet, quoi. Et je remercie Alexis Tripier d'avoir impulsé ce projet et d'avoir accepté que je le mette en scène et de m'avoir fait confiance aussi.
Bah, merci beaucoup, Julien Gros.
Plaisir.
La compagnie donc, issue de ce cours proposera donc son spectacle Les Tisseurs d'Instant au centre Léo Lagrange samedi 22, dimanche 23 et lundi 24 mai. Donc familial, le spectacle dure une heure. Il est accessible à toutes et tous et sera joué en journée à partir de 17h. Le plein tarif est à 10 euros, mais il existe aussi des tarifs réduits à 7 et 5 euros. Je vous invite à aller vous renseigner. Pour plus d'informations et donc pour réserver, contactez le centre culturel Léo Lagrange.
C'est déjà la fin de cette émission et aussi de cette semaine. Merci de nous avoir suivis. Nous, on se retrouve lundi, midi 18h, comme d'habitude. À lundi !